Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours, le compte à rebours est commencé. Vous savez pas ce que c'est, cette émission, compte à rebours, une émission de contes, d'histoires. Vous ne l'aviez jamais entendu? Eh bien, c'est tous les mercredis vers, on va dire, 12h35, des légendes, des blagues, des histoires courtes, plus ou moins longues, et toujours un peu spéciales, un peu particulières. Aujourd'hui, eh bien, c'est une émission véritable qui va vous parler de choses véritables. Vous savez qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait véritables, hein, et des fois, on se fait berner. Et là, c'est du vrai de vrai. Vous saurez enfin, par exemple, entre autres, qui est le véritable Nasreddin. Et oui, c'est que depuis le temps, on s'interroge qui est ce bonhomme. Et aussi, vous allez apprendre à reconnaître un véritable ami, grâce à une fameuse histoire qui nous vient d'Israël. Mais bon, avant de commencer à dérouler le fil véritable de ces histoires, en ces temps d'élection, interrogeons-nous un peu pour savoir qu'est-ce qu'un dirigeant véritable, un président véritable. Et pour pouvoir avoir des réponses avec une certaine hauteur, j'ai attrapé à nouveau ce vieux livre qui est en bas de la pile, qui a été écrit il y a 2500 ans, vous voyez que ce n'est pas récent. Il s'appelle le Tao Te Ching, il nous vient de Chine, et j'ai découvert des choses extraordinaires. Par exemple, au chapitre 24, j'ai découvert la description d'un homme qui m'a immédiatement évoqué un de nos candidats. Hein. Donc voilà, chapitre 24 du Tao Te Ching. Celui qui se dresse sur la pointe des pieds ne peut se tenir debout. Celui qui étend les jambes ne peut marcher. Celui qui se met en vue reste obscur. Celui qui est satisfait de lui n'est pas estimé. Celui qui se glorifie est sans mérite. Celui qui est orgueilleux cesse de croître. Par rapport au Tao, ses façons d'agir sont comme les vomissures et les tumeurs qui répugnent aux êtres. Bon, voilà, j'espère que vous avez eu la même évocation que moi. Autre chose, ben une question quand même qui importe. Qu'est-ce qu'un véritable gouvernement? Parce que on ne le sait pas. Et puis le Tao Te Ching, bien sûr, souvent avec il parle d'empereur, il parle de souverain. Aujourd'hui, on parle de république et on parle de dirigeant et de président. Mais c'est un peu la même chose. Hein. Donc voilà ce qu'il dit. Dans le chapitre 58, lorsque le gouvernement est simple et indulgent, le peuple est riche et généreux. Lorsque le gouvernement est formaliste et tracassier, le peuple est besogneux et mesquin. Le bonheur repose sur le malheur couve sous le bonheur. Qui connaît leur apogée respective? Si le gouvernement est sans droiture, la droiture devient erreur, et le bien devient perversité. Les hommes sont égarés, et cela dure depuis longtemps. Je rajouterai que depuis 2500 ans que cette phrase a été écrite, eh bien ça ne s'est guère arrangé. Peut-être après les prochaines élections. Un ami véritable. Avant de mourir, un homme très sage demanda à son fils: «
Mon fils, sais-tu le nombre de tes amis ? Le fils répondit, « Mon père, je crois en avoir une centaine. » Le père répondit aussitôt, « Mon fils, les sages disent, n'appelle jamais un homme ton ami avant de l'avoir mis à l'épreuve. Moi qui suis beaucoup plus vieux que toi, je n'ai connu dans toute ma vie que la moitié d'un ami. Comment pourrais-tu en avoir une centaine ? Mets-les tous à l'épreuve et tu sauras si parmi eux, tu peux posséder un ami véritable. » « Mon père, répondit le fils, comment pourrais-je reconnaître un ami véritable ? Abat un mouton, coupe-le en morceaux et mets-le dans un sac taché de son sang. Portant ce sac, va trouver alors celui que tu appelles un ami en lui demandant de bien vouloir enterrer cet homme que tu as été obligé de tuer et que tu portes sur tes épaules. Et tu ajouteras, personne ne le saura, et tu me rendras un grand service car je suis dans une situation désespérée. » Le fils fit aussitôt ce que son père lui avait conseillé. Il alla trouver son ami le plus proche. Mais l'ami répondit, « N'entre pas dans ma maison, enterre ce mort toi-même, car tu as commis une mauvaise action. » Le jeune homme se rendit chez tous ses amis. Mais partout, il reçut la même réponse. Il revint alors chez son père et tristement lui raconta ce qui lui était arrivé. « Nombreux sont les amis dans les jours heureux, » dit son père. « Mais dans la détresse, ils sont rares. Maintenant, va trouver l'homme dont je t'ai dit qu'il était la moitié d'un ami et écoute bien ce qu'il va te dire. » Le fils se rendit chez l'homme dont son père avait fait l'éloge et lui demanda de lui rendre le même service. L'homme lui répondit, « Entre dans ma maison sans faire de bruit pour que les voisins ne t'entendent pas. » Il ordonna à sa femme, à ses enfants et à tous ceux qui habitaient chez lui de sortir. Et quand il fut seul avec le jeune homme, il creusa un trou pour y cacher le cadavre. Quand le jeune homme vit combien fidèle était le cœur de cet homme, il lui avoua la vérité et le remercia. Il rentra chez lui et raconta à son père tout ce qui s'était passé. Puis il demanda au vieil homme, « Mon père, si cet homme n'était que la moitié d'un ami, as-tu jamais rencontré un homme qui fût un ami tout entier ?»« Je n'en ai jamais rencontré moi-même, » dit le père, « mais j'en ai entendu parler. » Et le vieillard raconta à son fils. On m'a dit que deux marchands qui habitaient des villes très éloignées l'une de l'autre et ne se connaissaient pas personnellement étaient des amis véritables. Un jour, un des marchands décida de se rendre dans la ville où vivait le second marchand. Quand celui-ci apprit que son ami était en route, il alla à sa rencontre, l'embrassa et le conduisit dans sa maison. Il donna en son honneur une grande fête qui dura 8 jours et il montra à son invité toutes ses richesses, ses esclaves, femmes et hommes et ses instruments de musique. 8 jours plus tard, l'invité tomba malade. Son hôte en fut très affligé et fit venir tous les médecins et tous les sages du pays qui examinèrent le malade, mais ne surent trouver la cause de son mal. Ils finirent par affirmer qu'il était probablement malade d'amour. Aussitôt, le marchand alla trouver son ami et lui demanda si l'objet de son amour vivait dans sa maison. Le malade répondit, « Si tu me montres toutes les femmes qui habitent chez toi, je te désignerai celle que j'aime. » Le marchand fit venir toutes les esclaves de la maison pour que son ami désigne l'élu de son cœur. Mais le malade n'en désigna aucune. Le marchand fit venir ses propres filles, mais le malade n'en désigna aucune. Toutefois, il y avait encore une jeune fille dans la maison. Elle était belle comme le jour. Le marchand l'avait fait venir chez lui depuis son enfance. Elle devait, lorsque le temps serait venu, devenir sa propre femme. Le marchand la fit appeler. Et dès que le malade la vit, il s'écria, « C'est elle !» Aussitôt, le marchand offrit à son ami d'épouser cette jeune fille et la dota comme c'est l'usage. Lorsque le marchand fut guéri, il retourna dans sa ville natale, accompagné de sa jeune femme. Plusieurs années passèrent, et il arriva que le marchand, qui s'était montré si généreux envers son ami, perdit toute sa fortune. Il se dit alors, « Je vais aller trouver mon ami auquel j'ai offert l'hospitalité et que j'ai guéri en lui donnant son épouse. Il aura certainement pitié de moi. » Et l'homme se mit en route, dépourvu de tout, Il marcha longtemps, pendant des jours et pendant des semaines, et atteignit le but de son voyage au milieu de la nuit. Il décida d'attendre le jour pour se rendre à la maison de son ami et s'assit, car sa lassitude était extrême, à l'entrée de la ville pour se reposer. À peine était-il assis que des habitants de la ville arrivèrent. Ils étaient lancés à la poursuite d'un assassin. En voyant l'étranger assis sur le bord de la route, ils l'accusèrent de l'assassinat. L'homme était tellement las qu'il n'eut pas la force de se défendre. On le jeta en prison et le lendemain, il fut amené devant le tribunal qui le condamna à être pendu. L'exécution devait avoir lieu dans l'après-midi. Une grande foule se rendit sur la place pour assister à la pendaison. Parmi elles se trouvait l'ami du malheureux marchand. Quand il vit celui qu'on allait pendre, il reconnut son ami et se souvint de sa fidélité, de sa générosité et de tous ses bienfaits. « Pourquoi voulez-vous pendre cet homme ? » s'écria-t-il en s'adressant au juge. « Car ce n'est pas lui l'assassin, c'est moi !» Les juges furent obligés de relâcher l'homme qu'ils allaient faire pendre et d'arrêter celui qui avouait son crime. Le marchand se prépara donc à être pendu à la place de son ami. Mais parmi la foule se trouvait le véritable assassin. Personne ne le connaissait. Il vit avec une extrême stupéfaction qu'un innocent voulait mourir à la place d'un autre innocent alors que lui-même était coupable. « Dieu est juste, s'écria-t-il. Il ne laissera pas un crime sans châtiment. Il veut me réserver une mort plus horrible. Je dois avouer mon crime, accepter la punition et sauver cet innocent d'une mort qu'il n'a pas méritée. » L'assassin se présenta devant les juges et s'écria « Ô juge, ne faites pas mourir un innocent à la place du coupable. C'est moi qui ai versé le sang. » Quand les juges entendirent ces paroles, ils arrêtèrent le criminel pour l'exécuter et libérèrent le marchand. Celui-ci conduisit son ami dans sa maison. Il lui offrit de la nourriture et des vêtements. Puis il lui confia toute sa fortune et lui donna même sa maison. Le vieil homme se tut et dit à son fils « Voici mon fils, l'histoire d'un ami véritable. » Thank you.
Et voici Nasreddine, avec aujourd'hui une question, bien sûr, hein, qui est le fil conducteur de cette émission. Qui est le véritable Nasreddine? Bon, difficile à dire. Et pourtant, il a répondu lui-même une fois à cette question, justement quand le qadi et l'imam ont voulu le savoir. Alors précisons tout de suite, pour ceux qui manqueraient de culture, que le cadi, c'est en quelque sorte le juge, l'officier d'état civil, et l'imam, c'est bien comme le curé chez nous, hein, si vous voulez, mais dans la tradition musulmane. Un jour, le cadi et l'imam, assez perturbés par toutes les activités et toutes les prouesses de Nasreddine, viennent le trouver et lui disent « Nous sommes venus passer avec toi une journée entière parce que nous voulons savoir exactement qui tu es. » Et ils le suivent. Ils le suivent tout au long de la journée. Je vous épargne cette journée. Il se passe de nombreuses choses. Nasreddine parle, Nasreddine rencontre des gens, Nasreddine fait des choses comme à son habitude. Et puis j'en raconte depuis des années de ces histoires. Donc la journée se termine et le cadi et l'imam entourent Nasreddine d'un air dubitatif. Ils disent... Nous avons vu ce que tu as fait et franchement, on a beaucoup de mal à savoir si tu es un imbécile ou un escroc. Nasreddine les regarde chacun d'eux et leur dit, eh bien, je peux vous répondre. Je peux vous répondre qu'à l'instant même, je suis exactement entre les deux. Nasreddine lui-même sait-il qui il est, hein? Une fois, il avait quitté, c'est la première fois qu'il avait quitté sa petite ville natale pour se rendre dans la capitale. Et là, il va dormir dans un lieu, une maison de thé où il y a un grand dortoir. Et lorsqu'il y arrive, c'est un peu tard, il y a déjà des dizaines d'hommes allongés sur des planches de bois qui ronflent. Et il se dit, mon Dieu, je vais me mettre au milieu d'eux, mais demain matin, est-ce que je vais pouvoir me retrouver? Est-ce que je vais pouvoir me reconnaître? Et par sécurité, comme il a une gourde qu'il a utilisée pour s'abreuver pendant le voyage, elle est vide, il l'attache avec une petite ficelle à son pied et en se disant, au moins, je pourrai savoir qui je suis sans l'ombre d'un doute. Il se trouve que celui qui est à côté de lui, qui dort, qui ne dormait pas justement, qui était censé dormir mais qui ne dormait pas, l'a vu dans son manège et pour lui faire une blague, sans doute, il détache la petite ficelle, se l'attache à son pied et se rendort. Ce qui fait que le lendemain matin, le bruit des hommes qui se lèvent réveille Nasreddine, il s'assied et là, stupéfaction, il voit sa gourde. Il suit la ficelle, elle va au pied de son voisin. Il dit « Bon, alors là, sans aucun doute, c'est moi, mais ici, dit-il en se montrant, qui sait ?» «
Compte à rebours, c'est fini pour aujourd'hui. Précisons quand même les sources. Cette histoire, cette version de cette histoire vient d'un livre qui s'appelle « Histoire merveilleuse des cinq continents » racontée aux enfants par Ray et Philippe Soupeau aux éditions Segers. Et puis la musique qui l'a accompagnée, c'était tout simplement le fameux groupe des Amsterdam Ketzmer Band. Voilà. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Compte à rebours, c'est fini. Yeah.